Bonjour mes frères et sœurs, que Dieu nous bénisse, et nous aide à bien comprendre dans quelle direction se dirige la colonne de feu et la colonne de nuée. Vous savez que Dieu est en train de nous conduire dans le rétablissement de toutes choses et nous devons faire très attention à ce que Dieu, à ce que l'Esprit du Seigneur dit à l'Église en ce moment. Je vais revenir sur le baptême pour les morts avec de nouvelles choses que le Seigneur m'a permis que je comprenne. Et je vais vous les enseigner afin que vous sachiez ces choses-là, parce que si je les garde pour moi-même, eh bien c'est dommage, je prive le corps de Christ de révélations extraordinaires. Alors ne soyez pas choqués, écoutez bien, priez, demandez au Seigneur de vous aider. Et si c'est sa volonté, eh bien, il vous fera comprendre ce que vous avez à comprendre. Prions. Seigneur Jésus, je te demande tout ton secours pour que chacun et chacune saisisse bien ta pensée et voit comment tu travailles et comment tu as travaillé jusqu'à ce jour avec ton peuple. Et que nous puissions entrer dans cette œuvre magnifique qui est la tienne. Et les révélations que tu accordes à ton peuple. Merci Jésus. Amen. Alors vous savez que nous avons une Bible, nous autres, chrétiens évangéliques, et puis il y a des gens qui ont une autre Bible, par exemple les Éthiopiens, ils ont une Bible dans laquelle se trouve le livre d'Enoch, parce qu'ils croient qu'il est inspiré. Vous savez qu'à la Réforme, on a failli perdre l'Apocalypse et aussi l'Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques, que Luther n'aimait pas du tout. Et puis, vous voyez, ça ne tient pas à grand-chose. Dieu veille sur sa parole. Et il y a beaucoup d'autres livres dont je vous ai parlé, et les écrits apocryphes chrétiens, je vous ai parlé des premiers écrits chrétiens, je vous ai parlé des écrits intertestamentaires, je vous ai parlé de beaucoup de choses. Vous qui venez sur Révélation Bible, vous êtes au courant. Aujourd'hui, je voudrais attirer votre attention sur la Bible, la dernière qui est sortie, la traduction officielle liturgique, donc c'est la Bible catholique, qui est le texte intégral publié par les évêques catholiques francophones. C'est sorti en 2013, vous vous rappelez, je vous en avais fait les éloges, je vous en avais parlé. Et dans ce livre, dans cette Bible, il y a d'autres livres que dans nos livres à nous, dans nos Bibles à nous. Par exemple, vous avez deux livres qui s'appellent les livres des Maccabées. Alors, pourquoi Maccabée? Chez nous, dans notre inconscient populaire, on pense qu'un Maccabée, c'est un mort. Ben non, pas du tout. C'était le nom d'un homme qui s'appelait Judas Maccabée. C'était son nom. Et donc, il y a quatre livres des Maccabées, mais les catholiques en ont retenu deux, le premier et le deuxième. Aucun de ces livres des Maccabées ne se trouve dans la Bible hébraïque. Les catholiques en ont pris deux. Les protestants considèrent ces livres comme des livres historiques fidèles, mais pas vraiment inspirés, parce que ça les dérange dans certaines doctrines. Les deux livres qui ont été mis dans la Bible catholique datent d'environ 160 ans avant Jésus-Christ. C'est un juif helléniste du nom de Jason de Cyrène qu'il a écrit. Et ce livre parle de beaucoup de choses, mais entre autres, il parle de la résurrection des morts. Alors que les juifs non hellénistes n'y croyaient pas du tout. Ils ne croyaient pas à la résurrection des morts, ils ne croyaient pas à la vie après la mort. C'est quand même bizarre, mais c'est comme ça. C'est très intéressant de voir l'évolution de la révélation que Dieu donne aux hommes depuis Adam. Par exemple, si vous lisez Moïse, et le décalogue, vous allez vous apercevoir que Moïse ne parle jamais d'une vie après la mort. En fait, il n'y croyait pas, il n'en parle pas. Ou alors, s'il y croyait, il n'en parlait pas. Pourquoi ? Eh bien, parce que Israël était un peuple qui sortait de l'esclavage et il avait surtout besoin, avant tout, d'apprendre à vivre sur terre, d'où la loi. Mais là, les juifs, et en particulier les pharisiens, croyaient dans la résurrection des morts. Et on les voit offrir même des sacrifices pour le péché des morts. Alors là, ça fait sauter au plafond, n'est-ce pas? Des sacrifices pour le péché et prient pour les morts. On va lire. Alors ça se trouve dans 2 Maccabées 12, 40. 41, 46, je vous fais la lecture, c'est instructif, hein. De toute façon, ça ne va pas faire autre chose que de vous instruire. Alors, il y a eu toute une histoire, des massacres et tout, tous bénir la conduite du Seigneur, donc comment Dieu les avait conduits, le juge impartial qui rend manifeste les choses cachées. Puis, ils se répandirent en supplication pour demander que le péché commis soit entièrement effacé. Le noble Judas, donc Judas Maccabée, exhorta la troupe à se garder de tout péché, ayant sous les yeux le malheur de ceux qui avaient succombé pour avoir commis cette faute. Donc, si vous voulez savoir de quoi il s'agit, vous lisez tout le livre. Il organisa une collecte auprès de chacun et envoya 2000 pièces d'argent à Jérusalem afin d'offrir un sacrifice pour le péché. C'était un fort beau geste, plein de délicatesse, inspiré par la pensée de la résurrection. Car s'il n'avait pas espéré que ceux qui avaient succombé ressusciteraient, la prière pour les morts était superflue et absurde. Mais il jugeait qu'une très belle récompense est réservée à ceux qui meurent avec piété. C'était là une pensée religieuse et sainte. Voilà pourquoi il fit ce sacrifice d'expiation, afin que les morts soient délivrés de leurs péchés. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Alors, quand on lit ça, c'est écrit 160 ans avant Jésus-Christ. Donc on s'aperçoit que ce ne sont pas les catholiques qui ont inventé la croyance dans la prière pour les morts, mais les juifs. les juifs hellénistes, c'est-à-dire sous influence grecque. Il faut savoir que il y a au moins 2 courants dans le monde juif religieux. Et ces 2 courants existaient à l'époque de Jésus. Il y avait ceux qui ne voulaient que les livres en hébreu, ça c'est des Sadducéens. Et puis il y avait les autres qui croyaient dans les livres écrits par les Grecs, ça c'est les pharisiens. Mais les catholiques ont pris la croyance des pharisiens. Et Jésus aussi d'ailleurs. Sur ce point, en tout cas, de la résurrection des morts, de la vie après la mort, Jésus donne raison aux pharisiens. Et pas aux Sadducéens. Et Pierre aussi donne raison aux pharisiens, et, puisqu'il dit que Jésus est allé prêcher aux morts, elle leur a apporté le salut. Alors, on trouve ça dans 1 Pierre 3, 19, je pense que vous avez déjà lu ce texte-là, 1 Pierre 3, 19, et je vous le redis quand même, c'est lui qui est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d'obéir au temps où se prolongeait la patience de Dieu quand Noé construisait l'arche dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées au travers de l'eau. Et c'était donc là une figure du baptême, il explique tout ça. Et puis dans 1 Pierre 4, 6, où il est dit... C'est pour cela que l'Évangile a aussi été annoncé aux morts, afin que, jugés selon les hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu dans l'esprit. C'est-à-dire qu'ils ont passé par un jugement, ils ont été mis dans un monde parallèle de tristesse, de malheur, un peu comme le riche de la parabole. Et puis là, eh bien, l'Évangile leur est prêché de façon à ce qu'ils puissent sortir de cette captivité et recevoir l'Évangile, être sauvés. Évidemment, tout ça, c'est quelque chose qui peut vous paraître nouveau, c'est quelque chose qui choque pas mal de gens, surtout dans le milieu protestant, parce que ils croient à la résurrection des morts, mais ils pensent qu'après la mort, c'est fini, on ne peut plus être sauvé. Alors les protestants ne croient pas à un salut possible après la mort, mais alors clairement. Alors que les juifs et les catholiques, oui, ils y croient. Alors qui a raison? Eh bien, c'est pas simple. C'est pas simple. Les protestants ont raison de citer Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9. Voyons que je trouve cette lettre aux Hébreux au chapitre 9 et au verset 27, où l'auteur aux Hébreux dit Et comme le sort des hommes est de mourir une seule fois puis d'être jugé, ainsi le Christ s'est-il offert une seule fois pour enlever la péché des multitudes. Et ils ont raison. Il est donné à l'homme de vivre une seule fois, après quoi vient le jugement. Juste, il se trompe de mort. Ah bon? Je vous explique. Qu'est-ce que c'est la mort? Eh bien, les scientifiques savent de moins en moins ce que c'est que la mort. Est-ce que la mort, c'est simplement le fait que notre cœur s'arrête et voilà, on est mort? Maintenant, on se pose beaucoup de questions parce qu'on a des milliers de témoignages de personnes qui sont revenues de cette mort clinique et qui ont dit qu'elles continuaient à vivre de l'autre côté. Donc, le fait que le cœur s'arrête, c'est pas ça la mort. Dans Hébreux 9, 27, Paul parle de la mort spirituelle, c'est-à-dire il parle de la mort de ceux qui choisissent le diable plutôt que Dieu, c'est-à-dire il est en train de parler de ceux qui ont blasphémé contre le Saint-Esprit, c'est-à-dire qui ont commis un péché qui est impardonnable ici-bas et aussi dans le monde à venir. Matthieu 12, 31, 32, je vous le lis. Matthieu 12, 31, 32. C'est pourquoi je vous le dis, c'est Jésus qui parle, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné. Si quelqu'un dit une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné, mais si quelqu'un parle contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné, ni dans ce monde, ni dans le monde à venir. Ah, avez-vous déjà vu ça? Jésus est en train de dire là donc qu'il y a des péchés qui peuvent être pardonnés dans le monde à venir, mais pas le blasphème contre le Saint-Esprit. Est-ce que vous avez déjà pensé qu'il y a des pécheurs qui pourront être pardonnés dans le monde à venir, c'est-à-dire après la mort? Je sais que c'est dur à avaler, mais pensez-y. Comme je vous l'ai toujours dit, Dieu est le Dieu des vivants, Dieu n'est pas le Dieu des morts. Dieu dit qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il le dit sans cesse, la Bible le dit sans cesse. Or, cela signifie qu'Abraham, Isaac et Jacob ne sont pas morts. Ils sont cliniquement morts. Leur cœur s'est arrêté, leur corps a pourri, il est dans la terre, voilà, bon d'accord. Mais aux yeux de Dieu et dans un autre monde, ils sont vivants. Voyons ça de plus près. Ce que la Bible appelle le Sheol, c'est la mort, en hébreu. En grec, c'est traduit par Hadès. Et Jésus reprend le mot Hadès, le mot grec, donc les écrits grecs, Jésus reprend les écrits grecs. Dans l'Hadès, le riche souffrait, c'est-à-dire dans la mort, après avoir eu une mort clinique. Il souffrait, c'est-à-dire il continuait à vivre s'il souffrait. Il parlait et même il priait. Vous allez me dire, c'est une parabole. Non, 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 non. Jésus ne raconterait pas un mensonge pour dire une vérité. Dans l'Ancien Testament, chez les Juifs non-hellénistes, dans la mort, il n'y a aucune conscience, il n'y a rien. Il n'y a rien après la mort pour eux. Donc, Jésus apporte une révélation que les Sadducéens n'ont pas dans Matthieu 22, 23, 32, celle de la vie dans la mort. Matthieu 22, 23, 32, je vous le lis. 22, là, c'est écrit, ce jour-là, les Sadducéens, ceux qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. Maître, Moïse a dit, si un homme meurt sans avoir d'enfant, le frère de cet homme épousera sa belle-sœur pour susciter une descendance à son frère. Il y avait chez nous sept frères. Le premier qui s'était marié mourut, et comme il n'avait pas de descendance, il laissa sa femme à son frère. Pareillement, le deuxième, puis le troisième, jusqu'au septième. Et finalement, après eux tous, la femme mourut. Alors à la résurrection, duquel des sept sera-t-elle l'épouse, puisque chacun l'a eu pour épouse? Jésus leur répondit, vous n'y comprenez rien. Dans une autre version, vous vous égarez, vous ne comprenez rien aux Écritures. Et là, dans la version liturgique, c'est écrit « Vous vous égarez en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu. » À la résurrection, en effet, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme les anges dans le ciel. Et au sujet de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce qui a été dit par Dieu ? Moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Et la foule était frappée par son enseignement. Les pharisiens croyaient ça. Parce qu'ils croyaient dans les textes des livres de Maccabée. Ils croyaient dans des livres écrits par un juif helléniste, Jason de Cyrène, et ils avaient reçu cette révélation de la résurrection des morts. C'est pas Moïse qui leur avait appris ça. C'est là, ces livres-là. Et Jésus se range là, du côté des pharisiens. Il affirme qu'il y a une résurrection des morts, il y a une vie après la mort. Les gens qui meurent ne meurent cliniquement, mais ne sont pas morts dans le sens qu'ils ont encore des sentiments, encore, il y en a même qui prient, etc., etc. Cette révélation est apparue environ 160 ans avant Jésus-Christ chez les juifs hellénistes, elle est reprise par Jésus clairement. Les anciens n'y croyaient pas, c'est pourquoi on peut lire des textes qui semblent contredire même Jésus. Par exemple, vous prenez Ecclésiaste 9, 10. Ecclésiaste 9, 10. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec la force dont tu disposes, car il n'y a ni travaux, ni projets, ni science, ni sagesse au séjour des morts où tu vas. C'est-à-dire dans le Sheol, dans la mort, il n'y a plus rien. Ça semble contredire ce que Jésus dit, mais ça ne contredit pas. Simplement, l'Ecclésiaste vivait dans un temps où Dieu n'avait pas encore révélé cela. C'est tout. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Il y a eu des temps où Dieu n'avait pas tout révélé. Dans Luc 16, 24, le riche prie. Il est dans le séjour des morts. Il prie, donc il a une certaine sagesse, il invoque Dieu. Il prie pour que Lazare, qui est du bon côté du séjour des morts, dans le sein d'Abraham, vienne mettre de l'eau sur sa langue, car il souffre dans cette fournaise, dit-il. Or l'eau qu'il demande, à mon avis, c'est l'eau de la parole de la grâce. Et ça lui a été refusé. Mais, une fois que Jésus est mort, alors que son corps était mis en tombeau, en esprit, il est allé mettre cette eau, apporter cette parole de grâce qui délivre ceux qui le désirent dans le séjour des morts. Les Sadducéens, qui ne croient pas dans la vie après la mort, se croient très intelligents en posant ce qu'ils croyaient une colle à Jésus. Un homme avait cette femme, de laquelle sera-t-il le mari de l'autre côté ? Et Jésus leur dit, vous êtes complètement dans l'erreur. Parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Il est en train de leur apprendre quelque chose, il est en train de leur révéler quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Parce qu'ils n'avaient que les écrits hébreux. Et tous ces écrits-là, dans l'Ancienne Alliance, ne révélaient pas une résurrection des morts. Tant qu'une personne n'est pas passée par la seconde mort, c'est-à-dire l'étang de feu, elle est encore vivante dans un monde parallèle, et cela, Jésus le croit, et il l'enseigne. Et même au cours de son ministère, Jésus discute avec un mort, Moïse. Moïse et Élie sur le mont de la Transfiguration. Alors Élie n'était pas vraiment mort, il avait été enlevé avec son corps, mais Moïse est bel et bien mort, c'est Dieu qui l'a lui-même enterré, d'après ce que dit la Bible. Donc, Jésus fait apparaître un mort. Donc, ces milliers de personnes qui sont cliniquement mortes sont encore vivantes dans le séjour des morts. Et si elles n'ont pas eu la révélation de Jésus sur terre, elles peuvent l'avoir quand elles entendent l'évangile prêché. La première chose qu'un chrétien fait quand il décède, c'est d'aller dans le mauvais côté du séjour des morts, comme Jésus l'a fait, et de prêcher l'évangile afin qu'une certaine catégorie de ces morts soit sauvée. Parce que nous autres chrétiens, nous sommes appelés à faire exactement ce que Jésus a fait. Et quand Jésus est allé dans le séjour des morts, il a pris autorité là-dedans, il a pris les clés, c'est lui qui tient les clés, c'est lui donc qui fait ce qu'il veut là-dedans. Et maintenant, on peut faire sortir des captifs de là. Parce que de nos jours, l'évangile est encore prêché dans le séjour des morts. Vous le voulez pas, c'est égal. Du temps de Jésus, les Sadducéens n'ont pas changé d'avis, ils sont restés avec leur avis à eux. Et puis ils ont fini par disparaître. Et comme le baptême est ordonné à tous ceux qui croient, dans Marc 16, 16, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé, donc c'est une des conditions, croire et être baptisé, et que Pierre le redit avec encore plus de force, précisant que le baptême d'eau est lié au pardon des péchés, vous lirez ça dans Actes 2, 38, repentez-vous, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon des péchés. C'est donc très important. Alors, nous nous faisons baptiser, nous, comme les premiers disciples le faisaient au temps de Paul, nous nous faisons baptiser pour les morts, croyant qu'il y a une résurrection. Croyant que l'évangile a été prêché à ces gens et que certains l'ont reçu. Il leur manque juste le baptême, condition absolue. Paul croyait ça, et dans l'Église primitive, on a cru ça jusqu'au IVe siècle. À partir de là, l'Église catholique naissante a changé ça, ils ont petit à petit trouvé d'autres moyens, ils ont trouvé le purgatoire, ils ont fait payer des messes, brûler des bougies, ils ont déraillé dans ce sens-là. Voilà pourquoi je vous disais, les juifs et les catholiques ont raison, mais c'est pas si simple que ça, parce qu'il y a des erreurs des deux côtés. C'est nous qui croyons dans le Seigneur Jésus qui avons la révélation exacte. Mais encore faut-il la recevoir, encore faut-il la comprendre, encore faut-il la mettre en pratique. Le baptême à la place des morts. Sur quel texte? Déjà sur le texte de 1 Corinthiens 15, 29, qui nous dit que cela se pratiquait dans l'Église primitive, et puis surtout ce que je viens de vous enseigner aujourd'hui et les autres jours au sujet de ce baptême pour les morts. La révélation, mes frères et sœurs, elle est progressive, elle a toujours été progressive. Si vous n'en voulez pas, c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel avec ce qu'il révèle dans ces derniers temps. Nous le faisons et nous continuerons à le faire avec foi, avec joie. Nous consacrons à ces choses avec beaucoup de sérieux. Nous ne nous occupons pas que des morts, nous nous occupons aussi des vivants. Nous allons prêcher l'Évangile. Je reviens là d'une mission en Afrique qui était magnifique. Nous avons vu 4 aveugles retrouver la vue, 2 sourds être guéris. Nous avons vu un paralytique guéri aussi se mettre à marcher seul, sans rien du tout, sans aucun appareillage. Nous avons vu des dizaines et des dizaines de guérisons qui n'ont encore pas été répertoriées et dont j'attends les photos et les témoignages. Dieu bénit ce que nous faisons parmi les vivants. Et il bénit aussi ce que nous faisons au sujet du salut pour nos ancêtres. Mais pas que pour nos ancêtres. Pour toute cette multitude de personnes qui ont passé de l'autre côté sans connaître Jésus et qui entendent maintenant l'évangile prêché de l'autre côté. Il y a une résurrection. Si Christ n'est pas ressuscité, à quoi cela sert-il de se faire baptiser pour les morts? À rien du tout. Alors, vous croyez dans la résurrection? C'est bien, mais ça ne suffit pas. Maintenant que vous croyez dans la résurrection, vous n'êtes plus comme les Sadducéens. Mais maintenant, vous pouvez aller plus loin. Ça ne suffit pas de croire dans la résurrection. Vous pouvez agir en faveur de vos ancêtres. Faites-le. Alors vous pouvez agir pour les vivants, et vous pouvez agir en faveur des gens décédés. C'est un grand privilège que Dieu nous donne. Alors, parmi mes propres amis, il y a des gens qui disent « Ah, c'est formidable tout ce que tu fais, tout, mais ils ne donneraient pas un sou pour m'aider à le faire. » Rien. C'est bien de parler, mais il faut aussi agir. Alors, n'oubliez pas d'envoyer vos dons pour, non pas les morts, mais pour les vivants, afin que nous puissions continuer à prêcher l'Évangile. Là, je dois repartir en février pour une mission. Et il n'y a plus un sou dans la caisse, donc il faut vous dépêcher d'envoyer, afin que nous puissions aller faire aussi de l'humanitaire là-bas. Et puis, envoyez-nous aussi les noms des personnes que vous connaissez, qui sont décédées, afin que nous nous fassions baptiser à leur place, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas tous les chrétiens qui seront baptisés pour les morts. L'apôtre Paul dit, s'il n'y a pas de résurrection, que font ceux qui se font baptiser pour les morts? C'est quelque chose de spécial, tout le monde ne le fait pas. Tout le monde n'a pas cet appel. Tout le monde n'a pas cette responsabilité, comme tout le monde n'est pas apôtre, comme tout le monde n'est pas évangéliste, comme tout le monde ne prophétise pas, etc., etc. Mais ça, nous l'avons reçu, et nous le faisons, et nous voulons bien nous occuper de le faire pour vos ancêtres. Alors, n'hésitez pas à nous envoyer vos listes, afin que nous puissions faire ce qui est à faire, afin que ces âmes qui sont là, dans la souffrance, et qui prient, comme le mauvais riche là, eh bien, puisse recevoir les eaux du baptême. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Seigneur de m'avoir encore donné ces pensées. Tes voix sont magnifiques et je te remercie de m'avoir inspiré afin que mes frères et sœurs puissent l'être aussi. Merci Jésus, sois béni et glorifié mon Dieu. Amen. Amen. Au revoir, à bientôt.